Bon, ça enregistre. Parfait. Oui. Donc, bienvenue à un autre épisode du Carré de Sable. En fait, c'est l'épisode de Curieux Rivard aujourd'hui, spécial Troubles de la personnalité avec Dr. Pierre David. Donc, je vais nommer votre titre comme je l'ai lu au complet.
OK.
Vous êtes psychiatre et chef du programme des troubles relationnels et de la personnalité de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. C'est ça?
Oui.
C'est une grosse carte, ça, quand même. Là.
Ça veut, non, il faut le prendre comme maintenant, nos instituts, c'est long, puis c'est dur à réduire. Puis si on veut faire ça politiquement correct, on nomme tout, là, mais non.
OK. Et la raison pour laquelle on se parle, c'est que récemment, le 20-21 mai dernier, vous avez tenu le deuxième colloque francophone sur les troubles de la personnalité.
Oui.
Et c'est un sujet, moi, qui me fascine et que je trouve super intéressant. Et j'avais envie, évidemment, qu'on se jase pour en apprendre plus sur tout ça. Mais avant de commencer, j'aimerais ça définir, parce que je sais que dans l'imaginaire populaire, la ligne n'est pas claire entre un psychiatre, un psychologue, un neuropsychologue, un neuroscientifique. Fait que je me demandais comment vous définissez ces titres-là différents.
Dans les faits, c'est des gens qui sont appelés à travailler ensemble, mais le psychiatre, initialement, c'est un médecin qui a fait une surspécialité en psychiatrie, au même titre qu'il y a des chirurgiens, des gynéco-obstétriciens ou des pédiatres. Fait que là, c'est quand même un cours de médecine surspécialité, puis on va un petit peu plus précisément s'occuper des maladies mentales, des troubles mentaux plus sévères. Puis, dans notre intervention, il y a aussi à prendre en compte les possibilités d'intervention au niveau de la médication, entre autres. Okay. Puis, bon, toutes les ordonnances de garde. Donc, dans les urgences, quand on consulte habituellement, c'est un psychiatre qu'on va voir s'il y a une consultation. Le psychologue, lui, c'est une autre formation à côté qui n'est pas médicale, mais les gens font un bac, maîtrise, doctorat et sont spécialistes au niveau de l'évaluation et des traitements des troubles mentaux, psychiques, mais ils ne sont pas médecins. Il y a des psychologues qui travaillent dans le réseau public, mais beaucoup travaillent dans le réseau privé par eux-mêmes, sans être liés à des psychiatres ou à des structures de soins. Le neuropsychologue, c'est une sur-spécialité de la psychologie. C'est quelqu'un qui est psychologue au départ, mais qui va se spécialiser dans l'évaluation plus détaillée du fonctionnement psychique, souvent avec des tests, donc fonctionnement cognitif, mémoire, au niveau du TDAH aussi, souvent ce sont des professionnels demandés. Mais okay. Le domaine est large, c'est complexe. Fait que ce sont des professions qui, ce qui se faisait en 1970, en 2000, en 2020, ça change un peu, puis il y a une interactivité qui est nécessaire souvent.
OK, puis tout le monde travaille ensemble, j'imagine, parce que tout le monde a comme dans la chaîne, là.
Oui, il y a une place pour tout le monde. Le travail des différents professionnels ensemble, l'interdisciplinarité, ça reste toujours un défi, là. C'est pas toujours évident, mais c'est ce qui est souhaitable, puis c'est ce qui est souvent le plus gagnant, surtout pour les gens qui présentent des problématiques assez complexes, là.
OK. Okay. Je me demande, j'ai entendu des notifications, je pense que vous recevez peut-être des courriels ou un espèce de... Ah, c'était votre téléphone, OK, parfait.
J'ai essayé de l'arrêter, mais mes habiletés techniques sont modérées, basses, fait que je sais pas.
Ah, mais il n'y a pas de problème. Si ça leur fait, on troubleshootera ça ensemble. Donc là, aujourd'hui, on parle des troubles de la personnalité. En fait, est-ce qu'on pourrait commencer juste par lister les différents troubles de la personnalité?
Oui, bien, soit on comment dire, c'est quoi un trouble de la personnalité? Puis parce que avant d'avoir un trouble spécifique, on parle d'avoir une reconnaissance d'un trouble de personnalité. Puis ce qu'on entend par trouble, c'est quelqu'un qui a des problématiques de fonctionnement significatifs, mais qui perdurent dans le temps. Donc, on ne parle pas d'un épisode de 2-3 mois ou d'une hyper-réactivité à une séparation. On parle de quelqu'un qui va avoir des difficultés soutenues en termes d'années. Ça peut prendre toute la vie, mais ça peut être une période significative de la vie et qui a au-delà des circonstances de vie. Okay. Puis tout le monde a une personnalité, là. Puis tout le monde a des bons... Comment dire? Tout le monde a des habiletés plus élevées ou supérieures dans certains domaines, puis plus de difficultés dans d'autres. Hein. Les gens professionnels vont être meilleurs, j'imagine, c'est des clichés un peu, mais dans des éléments plus de détails, de nomenclature, puis les gens plus expressifs, un peu plus, comment dire, dans l'hyper-émotionnalité, qui vont être meilleurs dans des domaines un peu artistiques. Là. Et puis ça, c'est comme correct, puis on a chacun plein de caractéristiques, on n'est jamais pas deux personnes pareilles. Mais on parle d'un trouble quand là, ces caractéristiques-là sont extrêmes et où sont pas adaptables dépendant du contexte. Et à ce sens-là, les gens arrivent à un dysfonctionnement. Mais le cut-off n'est pas simple. Puis des fois, ben, on en fait, nous, de par notre profession, parce est-ce que le diagnostic ou pas? Mais dans la vraie vie, là, non, c'est un continuum.
OK. C'est pas épisodique, là.
Non.
Et les troubles relationnels, est-ce que c'est quelque chose qui est à part ou c'est non. Un symptôme nécessairement de...
Non, mais nous, on s'appelle la clinique des troubles relationnels et de la personnalité parce qu'on trouvait que ça, comme on dit, ça adoucit la pilule. Là. C'est moins pire pour les gens de dire que j'ai un trouble relationnel qu'un trouble de personnalité. Ça passe mal. Ça, c'est pas comme très populaire. Là. C'est moins pire là, mais initialement, c'est pas un diagnostic que les gens recherchent à avoir. Là.
OK. Puis, j'imagine que nécessairement, les troubles de la personnalité vont amener des troubles relationnels.
C'est ça. Oui. Des gens qui ont des difficultés. C'est un des éléments d'un trouble de personnalité. Difficultés relationnelles, difficultés comportementales, souvent l'impulsivité, difficulté à identifier et gérer les émotions. C'est un package. Là. Puis, difficulté aussi à avoir une idée de qui on est, ce qu'on veut, quelque chose d'un un peu cohérent au fil du temps. Et tout okay. Ça, c'est avec nuance parce que ça nous habite tous. Parfois, il peut y avoir des émotions qu'on ne comprend pas. Parfois, on peut avoir des comportements plus ou moins heureux, mais ça bouge avec le temps. Mais nous, on va cibler surtout les gens qui ont un dysfonctionnement assez sévère à ces niveaux-là.
OK. Puis, quand vous abordez, mettons, quelqu'un qui vient vous voir puis vous ne savez pas du tout c'est quoi le problème, comment ça fonctionne, en fait? Là, j'imagine qu'il y a des séances de vous parler, tout ça, vous essayez d'identifier s'il y a un trouble, quel trouble que c'est. Mais comment vous abordez cette bibitte-là là, de « OK, qu'est-ce qui se passe? »
Bien, habituellement, les gens, ils viennent, pour nous, pour la clinique, ils nous sont référés, mais des fois, ils peuvent venir à l'urgence, dans les centres de crise. La plupart du temps, pour nous, c'est des gens qui sont en crise, qui ont eu des problèmes relationnels, qui ont soit des hésitations de suicide, soit des comportements impulsifs. Et ce qu'on fait avec eux, bien, on regarde un peu, on tente de comprendre... c'est quoi leur vécu, comment ils voient ça, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, il n'y a pas de détails inutiles, là, mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, depuis quand vous sentez de telle façon, quelle est l'émotion que vous ressentez, est-ce qu'il y a eu des enjeux. Et souvent, comment dire, quand on est envahi par une crise, ben on n'est soi-même pas souvent bien capable de tout identifier ça. Là. Des fois, il y a des stress importants, mais nous, on ne les a pas vus. Fait que oui, d'avoir un retour significatif, détaillé là-dessus est utile. Puis l'entourage aussi peut être utile parce que des fois, on se voit mal, ce qui fait que l'entourage peut donner plein d'informations. Fait que là, nous, on va spécifiquement aller regarder l'historique de fonctionnement social, occupationnel, les enjeux de consommation, la suicidalité, les éléments affectifs, différents éléments. Puis on peut avoir, ça ne dure pas 4 heures, là, ça peut durer, mais ça ne dure pas 5 minutes, là, ça dure 1 heure 30, comme il faut, pour aller voir un peu l'idée qu'a c'est quoi le tableau, puis l'idée qu'a la personne de ses difficultés.
Okay.
On se retrouve aussi, nous, à évaluer, c'est quoi le diagnostic, c'est quoi l'entité, mais aussi c'est quoi la dangerosité, est-ce qu'il y a une nécessité d'intervenir rapidement ou pas, ou de protéger. Mais aussi, si on envisage un traitement, ben, il faut avoir l'idée qu'a la personne de sa problématique. On n'est pas dans un domaine où on pourrait être, comme en chirurgie, quelqu'un fait un appendicite, est un peu agité, ben, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais c'est, on l'endort, on enlève l'appendice, puis il ressort, puis après ça, c'est correct. Non, nous, la plupart des interventions qu'on va proposer vont être de nature psychothérapeutique, puis ça demande la capacité qu'a la personne de reconnaître une difficulté, puis de vouloir s'engager dans un traitement. Fait que ça, on le regarde un peu initialement à l'entrevue de départ.
OK. Puis les différents troubles sur lesquels vous pouvez poser des diagnostics, ça se trouve à être quoi exactement?
Le plus fréquent, celui qu'on consulte, que les gens consultent le plus, puis que tous les gens qui travaillent en santé mentale voient le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le trouble de personnalité limite. Il y a un acronyme qui est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux qui s'appelle le TPL. Fait que là, des gens, mm-hmm. les les gens viennent nous voir et disent « je suis TPL ». Puis quand on est en lien avec nos collègues français, ben, eux autres, ils disent encore « borderline », fait qu'ils disent pas ouais. « TPL ». Mais limite ou borderline, c'est la même chose, là, mais ça, c'est le plus fréquent que l'on rencontre. On voit aussi associer parfois des éléments de personnalité narcissique, on voit des éléments de personnalité antisociale, puis beaucoup d'éléments aussi d'évitement, d'obsessionnalité, de dépendance, qui sont des éléments un peu moins, comment dire, à l'avant-plan quand ils viennent, que les gens viennent à l'urgence, ils viennent à la clinique, mais ce sont aussi des éléments associés. En gros, ce sont ces troubles-là que l'on retrouve. Il y en a d'autres types de catégories qui sont un peu moins fréquents, là, un peu plus bizarres, des gens paranoïdes ou qui sont sans être psychotiques, voire de la manigance partout, ils sont plus prompts à être méfiants de l'entourage, à voir des choses qui seraient un peu orientées contre eux. Okay. Mais nous, c'est ça. Notre travail, ce qu'on voit le plus, ce sont des gens troubles de personnalité limite et quelques éléments narcissiques apparentés. Là.
OK. Puis pour ce qui est des dépendances, j'ai l'impression que c'est le genre de trucs qui doivent se parasiter entre eux. J'imagine qu'il y a des comportements qui doivent... ça te mène à consommer pour essayer de t'auto-médicamenter. Oui. Donc, ça doit être un gros pain à essayer de défaire. C'est-tu la dépendance qu'on traite ou c'est un symptôme de quelque chose d'autre en dessous?
Oui, bien ça, mettez le doigt là, souvent, un élément arrive avec plein d'autres. Fait que là, il faut essayer d'avoir une compréhension le plus cohérente possible de ça. Puis oui, on donne des étiquettes de diagnostic, mais c'est comme, tout ça est fluide. Puis oui, ça fait que souvent, on va retrouver des troubles, effectivement, de consommation. Puis là, quel est l'œuf ou la poule, ça dépend, mais des fois, ça s'auto-entretient. Quelqu'un a une difficulté à tolérer un événement, une émotion, une rupture, puis ça s'apprend là, de gérer ça, de ces situations difficiles-là. Mais souvent, on ne l'a pas appris, puis on va consommer. Puis là, quand on consomme, ben, on est moins capable ou apte à pouvoir gérer ça. On ne développe pas de maturité. Puis là, ben, notre capacité cognitive aussi de comprendre les choses puis de gérer notre impulsivité est plus limitée. Fait que là, oui, ça s'auto-entretient. Fait que ça, on le voit souvent. Puis on peut avoir des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux aussi reliés, là, dépendant de...
OK. Fait que ça doit être dur de remonter parce que j'imagine que ça, c'est des symptômes qui sont présents dans plein de trucs différents. T'sais, un TDA oui. peut être anxieux.
Oui.
Puis avoir. Fait que tout ça est comme OK, mais on remonte à quoi? Parce que les symptômes, ultimement, c'est faire de l'anxiété, être un peu dépressif, consommer trop. Ça se retrouve dans plusieurs diagnostics différents.
C'est ça, oui. Ben, on pourrait, à la rigueur, faire une évaluation de tout le monde, là, de plusieurs heures, plein de tests auto-administrés, mais bon, on ne va pas retrouver l'origine avec une compréhension là, détaillée de toute chose, mais on va tenter de voir les éléments les plus significatifs, importants. Puis souvent, quand on arrive à intervenir, ben, c'est des choses similaires. Là, quand quelqu'un a des troubles de comportement, il est impulsif, des instabilités relationnelles, soit de l'automutilation, ils consomment aussi, bien, c'est clair que d'avoir une intervention qui va cibler la diminution de la consommation, c'est bon. Là. Peu importe c'est quoi l'œuf et la poule, là, c'est ouais. bon. Après ça, d'amener la personne à avoir un plan de crise pour gérer les situations difficiles, c'est aussi bon. Là. Il y a plusieurs petits éléments comme ça qui sont qui vont être corrects aussi. L'autre élément, ce qui est souvent important, c'est d'amener la personne à prendre en compte de son contenu, son fonctionnement psychique, de ses émotions. Ça a l'air simple, mais non, d'arriver à nommer que là, je ressens de la tristesse, de la colère, de l'envie, de l'irritation. Il y a pas de mauvaise émotion, là, c'est correct de tout ressentir ça, mais d'avoir la capacité de pouvoir mieux identifier ça, ben ça, c'est un apprentissage, puis il y a des gens qui sont peu équipés pour ça, fait que ça peut se travailler. Même chose, si je ressens une telle émotion, ben comment ça que je ressens ça? Là, même les gens qui n'ont pas de trouble de personnalité, vous, moi, tout le monde, des fois, on ressent des émotions, on ne sait pas c'est quoi. Là, mm-hmm. Mais avec OK, on a un éclair, ou il y a un ami qui nous dit, ben là, écoute, je t'ai vu deux, trois fois de même, puis il nous fait un reflet, qui nous aide à comprendre. Ça fait partie de la vie. Mais les gens que l'on voit souvent sont particulièrement en difficulté pour identifier les choses qui semblent bien évidentes pour les gens autour d'eux.
Mm-hmm. Et les moi, les TPL, évidemment, comme plein de gens, j'ai plein de préjugés par rapport à ça. Okay. Parce que j'en ai côtoyé et j'ai été de l'autre côté. Donc, j'ai vécu un peu... j'ai appris à connaître c'était quoi en côtoyant des gens borderline. Ouais, c'est ça, à la dure. Donc, dans ce temps-là, il y a souvent moins d'empathie puis plus de protection quand t'es de ce côté-là. Mais éventuellement, tu finis par comprendre les nuances de tout ça parce que c'est effectivement très nuancé. Et je me demandais, parce que je sais qu'il y a une dimension, puis là, je vous dis ça, c'est vous le professionnel, là. Il y a une certaine distorsion de la réalité qui se fait, je pense, chez les certains, peut-être, troubles de personnalité limite.
Ben, oui, allez-y.
Oui, et donc je me demandais, quand vous êtes en consultation avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, comment vous faites? Parce que l'information qui vous arrive, c'est l'information que la personne vous donne, mais si cette personne-là distorsionne la réalité, comment vous faites pour caler ça? C'est pour voir que c'est faux. Parce que ces gens-là se croient généralement, donc ils ont l'air super sincères.
Oui, bien, comment dire, tout le monde, on est, peu importe notre diagnostic, notre situation, on donne, quand on rencontre quelqu'un ou on raconte une histoire, si on a eu une dispute avec quelqu'un, on va lui donner notre vision des choses, là, puis ça va donner. Fait que tout le temps, il y a plusieurs côtés à la médaille, puis ça, c'est un élément à considérer. Maintenant, on sait qu'on peut se tromper, on sait qu'il y a plein de choses qu'on peut ne pas saisir, puis il m'est arrivé de voir quelqu'un, puis d'être pas mal sûr de mon idée. Puis là, la prochaine rencontre, une semaine après, je vois la fratrie ou les gens autour, puis il y a plein d'éléments majeurs qui n'ont pas été nommés initialement. Puis c'était pas que la personne ne voulait pas me le nommer nécessairement, mais ça peut être que c'est en dehors de son champ de conscience. Alors oui, il y a toujours un risque d'erreur. Par contre, souvent, quand on voit les gens où ils sont en crise, on pose plein de questions, puis souvent, ils vont nous donner, si on établit un certain lien de confiance, ils vont nous donner quand même beaucoup d'informations, puis on arrive à avoir une idée de ce qu'on veut chercher pour peut-être avoir une meilleure compréhension du dysfonctionnement. Là. Fait que, okay. Oui, quand quelqu'un a eu au niveau relationnel de multiples relations, qui n'est pas capable de tolérer la séparation, qui a des comportements automutilatoires, répétés, d'autres types de comportements impulsifs, on n'est pas jamais certain là, qu'on voit l'ensemble du tableau, mais ça nous amène à certains éléments. On est toujours soucieux de, mais pour tout le monde, de est-ce qu'il y a un... Je sais pas comment dire ça, mais est-ce qu'il y a un gain à venir en psychiatrie, vouloir avoir un billet? Puis bon, tu sais, il y a pas grand monde qui vient nous voir puis qui veut. En tout cas, il y a pas grand gain à vouloir venir nous voir pour avoir un diagnostic de trouble de personnalité là, à part être en traitement. Mais si tu l'as pas, tu vas pas être en traitement. Non. Parfois, les gens ont de la difficulté à accepter ce diagnostic-là, puis aimeraient mieux avoir un diagnostic de trouble bipolaire ou de dépression, là, ça passe mieux, c'est vu comme étant davantage biologique. Mais quand les personnes nous rapportent un peu leurs difficultés relationnelles, émotionnelles, leur impulsivité, on a tendance quand même à les croire parce qu'il n'y a pas de gain à ça. Okay. Mais ça reste toujours qu'il y a plein de choses, il faut être humble, il y a plein de choses qu'on peut ne pas voir, là.
OK. Parce que moi, j'avais identifié aussi quelque chose qui me fascinait, que j'ai vu, c'est plein de gens que je connaissais qui avaient le diagnostic TPL, qui était cette espèce d'intolérance au rejet. Donc, ça se traduisait par un besoin de plaire constant. Oui. Donc, c'était toujours en train de s'adapter à l'interlocuteur pour essayer d'y présenter la version que cette personne-là aime le plus.
Oui.
Pour être sûr de plaire à cette personne-là. Donc, c'est un ajustement constant de... Et ça, est-ce que vous, en traitement, vous êtes confronté à ça ou ça s'identifie assez rapidement que la personne est en train d'essayer plus de plaire que de réellement attaquer son problème?
On dirait que c'est un genre de catch-22, là, dans le sens où, bien sûr, la personne qui vient en traitement et qui essaie de plaire au thérapeute ou au psychiatre, on lui demande d'adresser des affaires difficiles, de faire des devoirs pour mieux gérer la détresse. Fait que si elle veut me plaire, elle va faire ça. Puis ça fait ça, elle va aller un peu mieux. Fait que, mais oui, il y a une limite où, effectivement, si c'est pas authentique, c'est juste comme pour démontrer que j'ai été un bon patient, j'ai bien fait, là, il y a un problème. Quand on les voit une courte période de temps, on peut plus se faire avoir. Puis j'avais une collègue infirmière qui avait appris sur le tas, mais tu sais, elle disait « Non, on accepte de se faire avoir. Il y a des gens qui peuvent nous raconter des mensonges. » Conscient ou inconscient, des gens qui peuvent ne pas s'en rendre compte sur le coup. Puis oui, ça peut arriver. Mais somme toute, quand même, dans un parcours de plusieurs mois de suivi, on arrive à essayer de voir les motivations plus authentiques. Là. Puis cet élément-là est important parce que, comment dire, il faut que la personne éventuellement arrivent, comme nous autres, là, à oui, c'est important de prendre en compte l'extérieur, puis de tenter d'avoir des bons gains, mais à un moment donné, au-delà de tout ça, il faut savoir ce qu'on veut, puis il faut être capable de mettre des limites, puis il faut être capable de tolérer d'éventuellement de pouvoir déplaire ou d'avoir une opinion qui n'est pas validée par autrui. Là. Fait que ça, oui, c'est pas loin de les éléments qui sont souvent travaillés.
OK. Mais est-ce que c'est... Ah, allez-y, pardon.
Non, mais pour l'entourage, c'est un challenge, parce que comme vous l'aviez tout à l'heure, là, ça fait beaucoup réagir. Mais nous aussi, les équipes thérapeutiques, aussi, ça les fait réagir. C'est pas une clientèle. On va pas en santé mentale pour soigner les gens qui vont être impulsifs, pas venir au rendez-vous, lui faire une plainte, puis, ou hyper réagir. Mais on peut ressentir différents types d'émotions, mais ce qui est aidant pour nous, mais ce qui est aidant aussi pour l'entourage, c'est de comprendre un peu ce qui se passe, puis de savoir ce qui nous appartient, puis ce qui appartient à l'autre, puis d'avoir aussi une idée de... c'est pas une mauvaise intention, là. Il y a une dynamique dans laquelle les gens sont pris, puis si moi, j'arrive comme proche à saisir un peu ce qui se passe, à m'en dégager, ben je suis un peu moins bouleversé, là.
Ouais, je comprends. Puis est-ce que... je me demandais... L'entourage, est-ce qu'il y a une éducation qui est faite avec l'entourage de la personne pour justement l'aider à cibler, identifier, pas prendre les trucs personnels? Un peu comme les traitements pour la dépendance, tu vois, mettons, Maison Jean Lapointe, il y a des groupes d'aide pour l'entourage des alcooliques. Est-ce que ça se fait, ça aussi?
Ça se fait un peu, mais ça se fait pas assez. Ça devrait se faire bien, bien plus dans le sens où... on voudrait qu'il y ait des activités de groupe et de formation. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que souvent, on va rencontrer les proches, la fratrie, lors de l'évaluation. Puis oui, on a des groupes, là, 3-4 fois année d'information générale, puis, mais on n'a pas les capacités professionnelles d'en faire plus. Souvent, on va référer au groupe d'entraide des parents et amis. Donc, okay. À Montréal, c'est l'Association québécoise des parents et amis du malade mental. À Laval, c'est l'ALPABEM, l'Association lavalloise. Je ne suis pas sûr de l'acronyme, là. Mais il y en a partout. Puis c'est une grande demande des proches de qu'est-ce que je fais avec mon fils, ma fille, ma conjointe, mon chum qui est TPL, puis qui menace de se suicider, tout ça. Alors, la grande majorité ont mis en place des interventions courtes, mais quelques rencontres pour aider, informer, coacher. Puis aussi, il y a des rencontres plus psychoéducatives de 10-12 rencontres où on donne de l'information plus détaillée sur ce qu'est le trouble et puis aussi comment gérer, qu'est-ce qu'il y en a, comment on met une limite, comment on tolère. C'est ça, comment on tolère qu'il y a un certain risque qu'on ne peut pas prendre sur nous non plus parfois, ce qui n'empêche pas que oui, on peut avoir des interventions qui vont favoriser à ce que la personne aille aux urgences au bon moment, là. Fait que oui, il y a ça. Mais idéalement, on en ferait beaucoup plus parce que quand on fait les deux, ben ça aide. Hein? Quand l'environnement, l'entourage travaille dans le même sens que l'équipe thérapeutique, ça va mieux.
Ah, c'est clair. Et est-ce que c'est quelque chose qui se traite mieux lorsque c'est diagnostiqué plus tôt, le plus jeune possible?
Ça, c'est une règle d'or, pas mal tout le temps.
OK.
Oui. L'enjeu qu'il y avait, c'est que il y a longtemps, il y a 30 ans, on avait l'idée que quand on donnait un diagnostic de trouble de la personnalité, c'était comme ça ne changeait pas. Donc, si on le donnait à 18, 20 ans, ben à 50, 60 ans, on avait l'idée que les gens garderaient encore ce diagnostic-là. Fait que donc, c'était vu comme un diagnostic d'exclusion. Je vais essayer d'autres choses. Je vais le traiter comme un bipolaire. Mais là, si on donne des diagnostics qui ne sont pas bons, puis on ne donne pas le bon traitement, ça aide pas. Fait que c'est comme, ça aide pas. Là, on a vu que, par plein d'études, ça, c'est clair, que les gens évoluent, puis plusieurs vont perdre le diagnostic avec le temps.
Fait que wow.
Là, OK, il y a des gens qui perdent le diagnostic. Fait que comment ça? Donc, c'est pas si tant stable. Fait que la nomenclature américaine a changé sa façon de le considérer. Là, avant, il y avait les axes, puis c'est sur l'axe 2 qui ne bougeait pas, un peu au même niveau que les déficiences intellectuelles qui ne bougent pas avec le temps. Mais là, ça a été modifié. Là, non, on convient que ça peut bouger. Puis on a aussi des informations à savoir que les devenirs sont très, très... Là, je prends un long détour. Là. Les devenirs sont très, très variés. Puis il y a des gens qui quand même complètent des suicides. Fait qu'il y a un taux de mortalité à long terme de 8-9%, ce qui n'est pas rien. Puis on se rend compte aussi qu'il y a des méthodes thérapeutiques qui aident beaucoup les gens à aller mieux. Fait que là, OK, donc c'est grave, les gens peuvent en mourir, ça bouge, là, on ne garde pas toujours le même diagnostic, puis il y a des interventions thérapeutiques qui aident ces gens-là. Donc, éthiquement, ça ne fait pas sens de ne pas porter de diagnostic si on peut aider quelqu'un. Fait que là, il y a un changement qui est en cours depuis une vingtaine d'années. et où, oui, c'est utile de poser un diagnostic pour offrir des méthodes de traitement, pour amener les gens à mieux gérer leurs émotions, diminuer leur impulsivité, mieux fonctionner, puis éventuellement perdre le diagnostic, puis éventuellement, ben oui, ça peut être des gens qui vont rester un peu plus sensibles que d'autres à certains niveaux, moins capables de tolérer certains contextes, certaines idées d'intérieur des fois ressenties, mais pas au niveau d'un trouble de fonctionnement. Puis des fois, c'est des gens très, très dynamiques. On a des collègues, il y a la maison sans limite à Laval, où il y a des gens très, très dynamiques, là, mais il y a la responsable de ça, Mme Ménard, là, elle en parle avec enthousiasme. Comment c'est des gens fantastiques quand on arrive à gérer le côté qui déborde à ce niveau-là. Fait que, là, j'ai oublié la question de départ, c'était...
Est-ce qu'on les prend le plus jeune possible?
Oui, c'est ça. Fait que, oui, de traiter plus tôt, c'est clair que c'est utile parce que ça permet aux gens de changer leur devenir, là. Puis quand on intervient, souvent on n'intervient pas pendant des années. La plupart du temps, on intervient un an ou deux, thérapie de groupe individuelle. Puis la personne développe des outils, puis après ça, elle n'est plus dans le milieu psychiatrique pour la plupart. C'est pas toujours ça, mais souvent c'est ce qu'on escompte et ce qu'on voit.
Mais c'est cool parce que moi j'avais le préjugé que puis j'avais lu ça où on me l'avait expliqué que quand tu as un diagnostic de TPL, borderline, puis même, je pense, pour les narcissiques aussi, ça, c'est... T'es condamné, là. Ça va être ça toute ta vie, puis il n'y a rien à faire.
Oui, il peut y avoir une coloration. On ne change pas complètement avec le temps, là, mais on change un peu, puis oui, les gens peuvent perdre le niveau de dysfonctionnement qu'ils avaient auparavant, ça, c'est clair. Ce qu'on voit, puis c'est dur de prévoir lesquels vont bien changer, mais tu sais, il faut adresser la consommation. Quelqu'un qui consomme beaucoup ne va pas s'améliorer spontanément. Quelqu'un qui est capable de s'inscrire dans une activité qui a une certaine responsabilité, puis une certaine valorisation, études, travail, c'est aussi bon parce que ça aide à définir l'identité. Ça, c'est utile. Puis le traitement va aussi aider. Ce qu'on voyait aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont perdre le diagnostic, qui ne sont pas en traitement, mais souvent, l'effet pervers, c'est qu'ils vont développer des comportements d'évitement. Hein? On peut imaginer le jeune adulte, 18, 20, 23 ans, qui consomme, qui a plein de partenaires, qui est impulsif à plein de niveaux, instable à tout niveau, puis il y a une vie un peu trilante, là, elle n'est pas plate, sa vie, là, il y a quelque chose qu'il fait. À un moment donné, ben, il se rend compte que c'est lourd, que quand je suis en relation, ça finit toujours mal, que quand je suis dans un emploi, je quitte ou je me fais mettre dehors, puis là, ben, la personne décide d'en faire de moins en moins, d'être davantage dans un comportement d'évitement. Et là, on va la retrouver à 35, 40 ans, ben, sur l'aide sociale, pas voir grand monde ou une ou deux personnes, puis pas d'activité extérieure ou à peine quelque chose, une ou deux choses. Puis là, ben OK, là, il y a moins d'instabilité relationnelle, moins d'instabilité comportementale, moins d'instabilité affective, mais c'est parce qu'il y a moins de choses qui se passent. Puis ça, c'est la personne officiellement perdrait le diagnostic, mais le devenir n'est pas ce qu'on désire. Et ce qu'on pense, nous, c'est que apprendre à mieux gérer ses émotions, mieux améliorer son fonctionnement, ben ça demande, si possible, un certain encadrement, mais il faut s'exposer un peu. Là. L'évitement, ouais. Trop d'évitement, pour personne, c'est pas bon.
Ben
ça,
non,
on voit ça.
Mais il me semble qu'en traitement, je pense que s'exposer à une peur ou à une situation difficile, ça fait partie du traitement pour justement l'apprivoiser puis y aller graduellement. Fait que c'est sûr que si tu te retires de ça complètement, t'as plus de problème, mais t'as plus rien non plus autour. Là. Tu t'isoles.
C'est ça. C'est que souvent, nous, il y a l'idée des fois que les gens disent ben, on vient en traitement, puis après ça, on y va travailler, on fera des choses. Non, non. On a plein à nager dans l'eau. Là, on peut avoir un cours théorique, mais il faut quand même aller dans des activités où on est en interactivité. Puis ça va nous mobiliser. Puis on n'aimera pas le patron, puis le collègue, puis tout ça. Plein d'affaires humaines, ordinaires. Mais tu sais, il faut les ramener parce qu'il ne faut pas surréagir. Il faut garder son intérêt ou à tout le moins être soutenu dans sa démarche. Puis ça, être en thérapie en même temps, ça permet d'adresser ça. Là. Fait que ça, c'est vraiment le package qu'on aime. La personne qui reconnaît sa difficulté, qui est capable d'être dans une démarche de traitement, mais qui en même temps s'expose modérément. Là. On demande pas aux gens de travailler 60 heures semaine, 2-3 jours ou des études, c'est correct, mais qu'on voit des gens pour avoir certaines responsabilités.
Ah, nice. Puis est-ce que, d'un point de vue chimique, les médicaments, Quel type de médicament, dans quel cas vous allez recommander une médication? Puis est-ce que c'est pour le trouble de la personnalité limite directement ou c'est pour traiter un symptôme autour? La plupart, je sais qu'il y a plein de nuances, évidemment.
Vous posez très, très bien la question. Il n'y a pas une médication qui est officiellement acceptée ou validée comme étant un traitement du trouble de la personnalité. Okay. C'est comme le gold standard. Ce qu'il faut faire, c'est plus la psychothérapie. Là, la médication n'est qu'un à côté qui peut légèrement aider. Bon, il y a, parenthèse, on peut avoir des conditions comorbides. Tu sais, je peux avoir une pneumonie, puis en même temps m'être blessé le genou. Fait que je vais prendre un antibiotique pour faire la pneumonie, puis je vais prendre une médication anti-inflammatoire pour mon genou. Fait qu'on peut avoir un trouble de personnalité limite, puis je peux avoir des attaques de panique, un épisode dépressif majeur ou certains symptômes psychotiques. Puis là, je vais prendre une médication ciblée pour ça. Fait que ça, c'est possible.
Okay.
Pour ce qui est du trouble limite en tant que tel, des fois, il y a des gens qui vont réagir ou bien répondre à, comme, aux antidépresseurs ou aux antipsychotiques à petite dose, et ça va les aider pour certains à présenter moins d'instabilité majeure des humeurs, moins de colère envahissante, moins de symptômes perceptuels bizarres, paranoïdes, mais c'est essai-erreur. Là. Il n'y a jamais chez quelqu'un qu'on va prescrire ça en disant « ça devrait vous aider, dans 70% des cas, ça aide ». Non, non, non. On essaie, on revoit, puis des fois, ça peut légèrement aider. Moi, je vais surtout le prescrire chez les gens qui ont vraiment... C'est beaucoup l'instabilité des humeurs. Là. Tu sais, les gens qui décrivent ça comme des montagnes russes, puis ça change plusieurs fois dans la même journée. Puis il peut y avoir des événements qui créent le changement, mais il peut y avoir aussi rien d'identifiable. Des fois, il y a quelque chose, mais la personne n'identifie pas. Puis ça peut être on est bien, jusqu'à on est très, très heureux, motivé, plein de dynamisme. Puis là, une demi-heure après, non, c'est de l'irritation, de la colère, de la détresse, de la suicidalité. Puis là, il y a des gens qui ça bouge beaucoup, puis là, c'est très, très désorganisant, fatigant. Ça veut dire que la personne, elle ne peut pas s'engager à qu'est-ce que je vais faire ce soir ou demain. Là, non, son état affectif est complètement, c'est random, là, il ne sait pas.
Ouais.
La médication aide un petit peu à limiter l'instabilité, mais c'est inconstant.
OK. Puis j'imagine que c'est ça, quand tu réduis cette instabilité-là, ben là, tu es plus en mesure de... Tu as plus d'espace pour identifier, pour réfléchir, pour prendre des actions concrètes que d'être dedans puis juste le vivre puis essayer de passer au travers. Là.
C'est exactement ça. Ben, je vais faire du pouce là-dessus. C'est que souvent, le scénario qu'on voit de temps en temps et qu'on aime bien, c'est qu'initialement, en traitement, on donne une médication qui va légèrement aider à stabiliser. Puis en cours de traitement, après 6 mois, 1 an, 2 ans, là, on va réduire la médication. La personne est plus stable, va développer des outils, un environnement un peu plus stable. Puis là, idéalement, elle va arriver à se départir, elle n'allait pas prendre de médication. Mais il y a quand même des gens chez qui, non, une petite médication aide, puis... Quand ils prennent ça, ils sont stables. Quand ils arrêtent de prendre ça, même s'ils ont été en thérapie, ils fonctionnent bien, il y a une instabilité qui demeure. En fait, pour certaines personnes, bon, le cerveau est complexe, ça va être une médication un peu comme le Synthroid pour l'hypothyroïdie, une médication qu'on va prendre longtemps, longtemps.
Okay.
Puis là, il y a toutes sortes de perceptions, mais ce qu'on propose, nous, aux gens, c'est l'objectif numéro 1, c'est d'être bien. L'objectif numéro 2, c'est de prendre le moins de pilules, de médicaments, mais l'objectif numéro 1, c'est d'être bien. Fait que c'est comme... peut-être que des fois, si on prend une petite médication, est-ce que ça serait un bon deal si on est convaincu ensemble que ça change de quoi puis vous allez mieux?
Ah. Puis ce qui m'intéresse aussi, c'est que généralement, ben je dis ça comme si je connaissais ça, mais Alors, des gens qui ont ce type de comportement-là, ils ont des troubles de personnalité limite, en général, j'ai l'impression que ils peuvent se construire un cercle social qui est très toxique parce qu'ils ont des personnalités un peu éclectiques qui vont dans tous les sens. Fait qu'ils peuvent se ramasser avec plein de gens qui nuisent à leur rétablissement parce qu'ils établissent des... Peut-être qu'ils font des relations basées sur des petits trucs très précis qui sont stimulants. Fait que c'est pas des... C'est ça, ils vont pas chercher dans des gens qui sont complets stables. Ils vont aller chercher une affaire chez une personne qui est le fun puis une affaire chez l'autre. Fait que comment vous abordez leur entourage pour essayer de déconstruire ça? Est-ce que vous l'identifiez? Est-ce que vous êtes en mesure de faire « OK, ben là, t'es mal entouré, en fait, là. » Et puis, il faut que tu t'en rendes compte.
Oui. Mais là, c'est sûr qu'il faut un certain recul dans le sens où ils vont pas suivre notre recommandation de lâcher le chum ou telle affaire. Puis, même si on fait... même si j'ai déjà essayé, là, ou à tout le moins une année, disait, non, non, les gens ne suivent pas ça. Il y a les deux, mais effectivement, souvent ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'instabilité, hein. Fait que c'est du monde qui n'a vu du monde, puis ils ne voient pas longtemps, puis souvent, ils n'ont pas de relation stable depuis très, très longtemps. Ce qui fait que ça bouge énormément. Mais oui, des fois, ils sont en relation relativement conflictuelle ou qui ne nous semble pas heureuse. Ben, on tente d'identifier. Puis des fois, quand les gens, mais comment dire, là, il peut y avoir un traitement en couple, mais c'est une autre démarche, puis on la gère pas à la clinique. Mais il n'est pas rare quand même que quelqu'un qui est en thérapie pendant un an ou deux, ben, va réévaluer son organisation de vie, puis va changer de partenaire pendant ce temps-là. Là. C'est des choses qui arrivent et qu'on voit. Maintenant, des fois, on peut être heureux qu'il y ait des changements dans la vie d'une personne, mais on n'est pas comme directement impliqué ou soutenu là-dedans. On voit plein de choses, comme ce qu'on parle dans la société actuellement, là, des gens qui sont en relation de couple un peu abusive, pour laquelle on identifie des choses, puis oui, on a une idée claire de ce qui doit être proposé, fait, mais la personne, si elle n'est pas en danger imminent puis elle ne l'actualise pas, ben, on vit avec, là, on n'a pas tellement le choix.
Ouais, mais de toute façon, vous travaillez avec cette personne-là, donc c'est un peu à elle d'effectuer les changements dans sa vie. Vous ne pouvez pas contrôler l'entourage en tant que tel. Vous n'avez pas le choix non.
Puis même si on voulait, ça ne marche pas. Là.
C'est ça, OK. Et moi, j'ai une vision de la psychiatrie. Dans ma tête, ça a toujours été, on remonte à l'enfance, puis là, on remonte, puis on analyse quel type d'enfant que tu étais, quel genre de vie que tu as eu, parce que j'ai l'impression que c'est une période super importante dans la formation de ta personnalité et tout ça, tout ce que tu vis, les besoins non répondus, puis un paquet de trucs comme ça. Fait est-ce que, ben d'un, est-ce que c'est vrai? Et de deux, est-ce qu'il y a quelque chose qui cause des troubles de personnalité? Est-ce qu'il y a des lieux communs?
Oui, ben il n'y a rien de nécessaire. Il n'y a pas un pattern qui est nécessaire pour développer un trouble de personnalité. Mais il y a des éléments qu'on trouve plus souvent. Puis en gros, c'est beaucoup les éléments d'abus, négligence, instabilité relationnelle. Beaucoup de gens comprennent le trouble de personnalité limite, entre autres, si on prend celui-là, comme étant, entre autres, au départ, des relations affectives qui sont... Je vais peut-être fermer ma fenêtre parce qu'il y a un bruit de fond.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Fait que c'est ça. Fait qu'on... On voit souvent, beaucoup de gens rapportent que c'est beaucoup un attachement insécure. Donc, l'attachement insécure, ce serait surtout relié au fait que dans l'enfance, jeune adolescence, les gens ont été en lien avec des personnes qui étaient inconstantes dans leur façon de se relier à eux. Fait que c'est pas des gens qui sont distants, là. C'est des gens qui peuvent être très, très impliqués, mais impliqués de façon inconstante. Fait que le père qui est très présent ou la mère qui est très présente pendant quelques semaines, quelques mois, puis après ça, whoop, on ne le revoit plus. Puis un autre arrive, ou dans les caregivers, dans ceux qui donnent les soins, ben, des gens qui vont être en même temps abusifs. Donc là, c'est dur pour l'enfant de réconcilier l'idée qu'il y a une personne qui parfois est bien intentionnée à mon endroit, mais parfois est pas du tout là, pas fiable, puis parfois complètement abusif. Et il y a des gens qui sont plus sensibles à ces événements de vie-là que d'autres. Mais souvent, on va voir de ces événements-là. Mais il y a des gens chez qui on tente de regarder au niveau historique, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y en a, puis on n'identifie rien de si tant spécial, mais habituellement, il y a quelques éléments en lien avec l'instabilité relationnelle et un attachement insécure. Puis l'attachement insécure, ben là, quand on est en relation, c'est un peu ça, là. Je suis en relation avec quelqu'un, mais je fais pas confiance complètement, j'ai la crainte qu'il y ait le rejet, l'abandon, fait que là, mon idée est beaucoup reliée à OK, est-ce que l'autre est vraiment en lien avec moi? Est-ce qu'il il va pas voir ailleurs? Là, j'ai pris des textos où je présume que l'autre va me laisser s'il est en retard à telle réunion qui est, s'il est en retard à telle rencontre qui est prévue. Alors que je peux pas imaginer le scénario que, ben, il y a peut-être eu un retard dans le transport en commun ou je sais pas trop, plein d'autres affaires, là. Non, ça me vient pas spontanément où je vais texter. Ça arrive là, 50 fois par jour quelqu'un pour me rassurer là, écoute, c'est pas vivable longtemps là. Fait que c'est des gens qu'on voit jeunes qui peuvent trouver leur représentation adulte. Maintenant, on peut le faire, on peut aller dans le détail, puis historiquement la psychiatrie était beaucoup en lien avec la psychanalyse, et puis c'était beaucoup l'historique développemental, puis après ça, on tente de travailler avec ça comme focus. Mais ce qu'on va faire en traitement, c'est, on ne veut pas nier cet aspect-là, puis on peut le regarder initialement à l'évaluation. Mais on prend la personne là, adulte, avec des moyens, des capacités de pouvoir prendre des décisions, puis on tente de prendre appui sur OK, sur ça. Ça veut dire, OK, reconnaître les enjeux, les difficultés, les fragilités, les vulnérabilités, mais c'est pas comme quand vous aviez 9 ans, 10 ans. Là, vous avez la capacité de pouvoir faire des choix. Il y a des choses que vous avez des habiletés. Vous ne pouvez pas tout changer, moi non plus. Mais fait qu'on est beaucoup dans le ici, maintenant, et puis prendre appui là-dessus. Parce que puis éventuellement, quand quelqu'un fonctionne bien, a plus le diagnostic est stable, d'aller dans une démarche psychothérapeutique où on va aller davantage fouiller ou investir l'historique développemental et les abus trauma, ça peut être fait, puis il y a des gens qui vont dans ça, puis c'est correct, mais il faut être assez fort parce que c'est très déstabilisant d'aller travailler au niveau de ces abus-là, situations de vie-là, s'il y en a eu, puis ils sont très traumatiques.
OK. Ah, c'est fascinant. C'est sûr que... Puis j'ai quelque chose que j'aimerais valider. Je ne sais même pas si c'est vraiment fondé dans votre domaine, mais moi, j'avais appris ça, que en fait, quand tu es jeune, tu es impuissant. Tu n'as pas de contrôle sur ce qui se passe. Si tu suis, mais tu n'as pas le contrôle de ta vie. Fait que tu es toujours comme à la merci des gens qui prennent soin de toi. Puis là, tu vas développer, tu peux développer des blessures par rapport à ça ou des complexes, un paquet de trucs comme ça. Puis quand tu te retrouves à l'âge adulte dans des situations d'impuissance ou de sentiment d'impuissance, généralement, tout ce qui remonte, c'est les mêmes blessures que tu avais quand tu étais jeune. Parce que ça te ramène à la dernière fois où tu étais dans ce feeling-là, où tu as forgé pas tes défauts, là, c'est pas le bon terme, là. Oui. Mais tu arrives adulte, puis là, tu te remets dans le même contexte. Oh, je me sens impuissant, puis quand tu étais jeune, tu étais impuissant, puis là, tout repop. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, ça, ou c'est pas du tout?
Bien, ce que vous décrivez, ça ressemble beaucoup à une façon de comprendre qui est en lien avec les schémas où on a, tu sais, parfois, ça, c'est une des façons de comprendre le psychisme et puis le fonctionnement psychologique, là. C'est que parfois, dans un contexte particulier, on est happé, puis on est dans un mode de relation, de se représenter qui est présent, puis il peut y avoir ce schéma-là où, OK, là, je suis face à une situation où je me sens impuissant, pas capable, puis là, ça revient avec tous ces souvenirs-là, puis les mêmes éléments émotionnels. Puis ça n'est pas en contradiction avec d'autres façons de voir, là.
OK.
Comme on dit, la psychiatrie, la psychologie, le cerveau est complexe, ce qui fait que, des fois, il peut y avoir... Puis à chaque fois qu'on a une théorie, c'est un peu une simplification parce que on comprend pas tout. Mais il y a différents points de vue qui expliquent des choses similaires, mais des fois légèrement différentes, là. Mais oui, comme vous dites, les événements de vie, jeune, ado, parfois, ça nous habite beaucoup, puis de prendre une distance de ça, c'est pas simple, mais pour tout le monde, là.
OK. Puis j'aimerais ça qu'on maigre un peu vers on en a parlé un petit peu au début, vers le narcissisme. Ça, c'est un sujet que je ne connais pas tant que ça. Je connais un peu, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est de plus en plus présent dans le vocabulaire général.
Oui, on a eu quand même...
Nos
voisins américains nous ont donné une leçon accélérée là-dessus. C'est un sujet que je trouve hyper intéressant. On est moins rendu loin. Toute la littérature psychologique, psychanalytique, sur l'estime de soi, le narcissisme, là, ça fait plus de 100 ans là, qu'on en parle et que les gens s'intéressent à ça, mais de bien classifier ça, de comprendre les tenants aboutissants, c'est pas si tant clair, puis pas de méthode de traitement bien validée en lien avec ces éléments-là. Puis en même temps, les présentations cliniques sont très, très variées. Mais premier élément qu'on peut dire, c'est que quand on parle de narcissisme, on a initialement avec le mot l'idée de quelqu'un qui pense qu'à lui, puis qui va faire l'étalage de ses accomplissements, réalisations, sa gloire, sa richesse. Fait que c'est ça qu'on voit, c'est ça la description initiale du DSM, du livre américain pour les diagnostics. C'est la grandiosité, là, la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf.
OK.
ex-président américain avait ça, là, de façon incroyable, tu sais, puis ça peut pas être...
Excusez, ça a coupé un petit peu.
Pardon?
Ça a coupé juste un petit peu. Vous n'avez rien à dire que le président américain avait ça de façon incroyable?
Mais c'est ça, là, c'est quand même, là, c'est assez impressionnant. Mais c'est ça, donc cette grandiosité, ce désir d'en mettre, de souligner à grand trait ses exploits, sa richesse, ses accomplissements. Bon. Fait que ça, on le voit comme un narcissisme. Mais dans les faits, la compréhension qu'on a du narcissisme, c'est que ça, c'est un genre de façade, d'une défense. Et pourquoi c'est présent? C'est qu'à la base, il y a une estime de soi qui est fragile. Pourquoi j'ai besoin de démontrer que j'ai tel accomplissement, tel succès? Ben, souvent, ça va être pour avoir le regard admirateur d'autrui. Souvent, ça va être pour se confirmer qu'on a une certaine valeur. Parce que si moi, vous, n'importe qui, on est relativement confiant en soi dans un domaine, ben, peut-être qu'on n'a pas besoin de mettre autant d'énergie pour avoir le regard admirateur d'autrui. Puis, fait que la base, c'est vraiment l'instabilité ou la fragilité de l'estime de soi, qui peut être dans la grandiosité. Puis on voit aussi dans le narcissisme un autre élément qui est moins décrit et ou connu, ce qu'on appelle plus le narcissisme hyper-vigilant. Donc, la personne qui ne va pas être à démontrer ses réalisations, mais qui va être hyper vigilant par rapport aux commentaires d'autrui, qui va être très soucieux de ne pas être humilié, de ne pas être mal vu. Encore là, parce que son estime de soi est fragile, puis si je suis mal vu, ou on convient, là, c'est jamais le fun d'être humilié, mais c'est comme pas tolérable parce que l'estime de soi que l'on a est pas intégrée. C'est fragile, et puis un commentaire ou un regard négatif d'autrui va déstabiliser ça. Puis, ce qu'on voit aussi souvent, c'est que c'est la même personne, il y a un petit peu des deux. Et chez Donald Trump, juste pour l'exemple que tout le monde connaît, ouais, il y avait ça, là. Il y avait cet aspect de grandiosité. Il est président des États-Unis, il est multimilliardaire, celui qui a le plus de pouvoir à ce moment-là. Mais en même temps, dès qu'une critique le moindrement banale à son niveau, il n'est pas capable de tolérer ça, là. Fait que si Meryl Streep lui fait une critique lors de la remise de prix, ben, il n'est pas capable, durant la nuit, il va tweeter et il va la dénigrer. Il va aller sur sa valeur à elle, disant qu'elle est overrated, là. Bon, Meryl Streep est overrated comme actrice. Il va faire ça, il a fait ça à plein de gens. Dès qu'il y avait une critique le moindrement reliée à lui, même s'il n'était pas si tant significatif que ça. Donc, mais là, c'est un exemple ultime, là, Donald Trump pourrait être narcissique, mais ça amène à comprendre que malgré tout ce qu'il a, il ne tolère pas la critique. Il est très, très fragile à ce niveau-là. Okay. Les enjeux narcissiques, on en a tous. Ça fait partie de la vie. Hein? C'est comme, c'est attendu que on aime ça, puis la société encourage un peu ça, là, avoir certains accomplissements, un bon fonctionnement, puis on tolère moins de moins être performant, d'être moins fonctionnel. Mais ce qu'on attend avec le temps, c'est d'être capable d'intégrer que on a des accomplissements, des choses qu'on est un peu meilleur, puis des choses dans lesquelles on est moins bon, mais c'est pas si pire. On est, somme toute, quelqu'un de valeur qui a des habiletés faciles à dire, là, mais ça prend un certain développement, un certain encadrement, support pour arriver à avoir une idée, une estime de soi qui est davantage stable.
C'est de créer sa propre valeur, en fait, de se réapproprier son identité plutôt que de la mettre dans les mains de tout le monde, du monde entier.
C'est ça. Alors, c'est pas qu'il faut être complètement détaché du regard des autres, mais il faut avoir un filtre, parce que le regard des autres, vous, moi, il y a du monde qui ne vont pas aimer ce qu'on fait, vont trouver que c'est pas approprié, puis bon, peut-être qu'on peut regarder ça puis s'ajuster, mais non, c'est pas ça qui doit être au premier plan, l'élément qui juge de notre valeur. On doit, avec le temps, être capable de convenir qu'on a des habiletés au-delà du regard des autres. Ou il y a des gens pour lesquels on va trouver qu'ils sont plus significatifs dans un domaine en particulier. Puis là, bon, si je fais une activité puis j'ai quelqu'un qui est très bon là-dedans, peut-être que les critiques ou les commentaires, je vais les prendre avec plus d'attention. Mais ça, c'est un domaine que je ferais. Là. Si je fais une activité sportive puis quelqu'un me donne des commentaires-là où je suis vraiment pas bon, ben c'est correct, je suis pas bon dans ce sport-là, puis mais je suis peut-être bon dans d'autres choses. Mais peut-être que si j'arrive à aimer cette activité-là, même si je suis pas bon, ben je peux avoir du plaisir quand même. Ouais. Faut juste être le meilleur, d'être bon.
ça, quelqu'un de narcissique, est-ce qu'il va s'empêcher? Oh, excusez, ça a coupé un peu. Hop, est-ce que vous êtes encore là? OK.
Oui, c'est encore là.
Ah, je vous en... OK, parfait, je ne vous entendais plus. Ça, quelqu'un de narcissique, est-ce qu'il va s'empêcher de se mettre dans une position où il ne sera pas hyper performant, justement, pour ne pas paraître?
Oui, oui, oui. Beaucoup de gens vont choquer et pas y aller de part parce qu'il faut. C'est comme n'importe quoi. Il faut tolérer qu'on puisse avoir un échec pour s'exposer. Même chose en relation affective, quelqu'un qui est TPL. Comme disaient les rituels médicaux, les histoires d'amour finissent mal en général. Fait que pour être en relation affective, pour s'engager, il faut pouvoir tolérer que peut-être ça ne fonctionne pas. Fait que c'est la même chose avec une activité. Il faut tolérer que peut-être on ne sera pas le meilleur ou très, très bon. Et si on est capable de nuancer là-dessus, c'est vraiment intéressant. Là.
Puis moi, je suis dans le monde artistique, là, je suis humoriste dans la vie. Fait que, c'est un milieu qui, je veux dire, c'est assez étrange parce que justement, on les voit un peu ces comportements-là, mais mon milieu est basé sur l'échec aussi, dans le sens où tu te mets sur la corde raide constamment d'une blague qui marche pas, des trucs comme ça. Ça, c'est une forme de rejet là, quand tu fais une blague qui fonctionne pas. Fait que c'est étrange parce que quand ça fonctionne, là, tu vois ce type de personnalité-là exploser puis être nourri, mais ils sont quand même exposés au départ avant d'avoir la validation de tout le monde que ça fonctionnait. Ils sont exposés à beaucoup, beaucoup de rejets. Là. Fait qu'il y a une espèce de ligne de quelqu'un qui a ce tempérament-là, normalement, ne devrait pas vouloir faire, mettons, de l'humour ou de l'art parce que ça reçoit beaucoup.
Mais c'est un jeu dangereux, mais en même temps, ça nourrit quelque chose qui est très fort comme satisfaction. Fait que, ouais. Mais idéalement, mais je comprends que c'est dur. Là, idéalement, c'est d'être capable de le faire puis d'être content quand ça va bien, mais sans s'enfler la tête. Là, je veux dire, on peut avoir des problèmes à d'autres niveaux aussi. Puis en même temps, quand ça va pas bien, ben, d'être capable de regarder parce que c'est un domaine, à ce que je comprends, où on contrôle tellement pas de choses, puis c'est pas évident de savoir au niveau de l'humour qu'est-ce qui a fonctionné bien et ou pas. Là.
Ouais.
Les grands, grands narcissiques n'iraient pas dans ce domaine-là de s'exposer, je pense. Ils resteraient un petit peu. Ou ils auraient un peu plus de contrôle. Fait qu'ils peuvent aller dans des narcissiques très fonctionnels, le monde des affaires politiques. Puis il y a des narcissiques très, très dysfonctionnels aussi qui n'ont jamais de travail ou d'emploi. Là, aussi, fait que le niveau de dysfonctionnement est très, très varié. Les gens qui sont très narcissiques, quand même, ça entache un peu la capacité relationnelle, quand même.
Ouais, puis je me demande, parce que j'ai une vision du narcissisme aussi qui est très apathique. Il n'y a aucune, il y a pas d'empathie, il y a pas de. On perçoit souvent ces gens-là quand il y a des scandales, des trucs comme ça, puis qui sont un peu identifiés comme étant narcissiques. C'est des gens qui vont se déresponsabiliser, qui vont se positionner comme victimes d'une situation plutôt que d'accepter la responsabilité de leur tort ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, ce qui est commun, ça?
Bien, toutes les nuances sont possibles. Il y a l'idée que, il peut y avoir aussi des composantes un peu d'antisocialité où les gens sont moins sensibles aux besoins de l'autre. Pour que le narcissique, celui qui a des traits très, très forts, là, soit capable de considérer, d'être empathique à l'autre, il faut qu'il soit rassuré puis relativement sécuritaire. Donc, s'il est très instabilisé, s'il est pointé du doigt, ben, il n'y aura peut-être probablement pas de place pour être attentif à l'autre. Puis là, il peut y aller dans toutes sortes de mécanismes qui vont être le déni ou accuser l'autre, projeter pour préserver sa façon d'être. Puis ça, juste parenthèse, déni, projection, encore là, c'est des mécanismes qu'on utilise tous de temps en temps. Puis, si on réfère encore à notre ancien président américain, ben, tu sais, lui, le déni, il le fait de façon répétée et en ce sens-là, il le fait alors que les choses, des évidences à côté qui sont contre ce qu'il dit, mais le déni, il arrive, lui, à l'aménager pour préserver le fait que c'est le plus grand, le meilleur et tout ça. Puis la projection, bien, c'est aussi être capable, par des entourloupettes cognitives, à amener l'autre à avoir la caractéristique que lui n'aime pas. Alors, il va appeler son concurrent Ted Cruz « Lying Ted », comme quoi qu'il est le menteur, alors que quand même, Trump est pas pire là-dedans. Ou il va y appeler Hillary Clinton « Crooked Hillary ». Donc, Hillary, je sais pas trop comment traduire, là, mais quelqu'un qui a des...
Qui est croche, là, qui est malhonnête.
mais en faisant ça, ben lui, il se protège un peu. Ce sont des caractéristiques que lui a, mais que nous aussi, on peut avoir parfois. Et ça, c'est des stratégies inconscientes qu'on a, mais qui nous amènent à ne pas être confrontés à la réalité, là.
OK. Parce que c'est quelque chose que j'avais déjà entendu aussi par rapport dans les clichés que je connaissais du narcissisme, de tu es en relation avec quelqu'un, puis cette personne-là, il y a un conflit, fait que tu finis par aller voir tout l'entourage de la personne pour essayer de changer leur perception de cette personne-là. Puis de... C'est-tu ce comportement-là? C'est-tu une traduction de ça?
Je suis pas sûr, pourriez-vous... je suis pas sûr de comprendre l'idée que vous
okay. avez... Ben, mettons que tu as un narcissique qui est en relation, mettons que c'est une relation de couple, puis là, ça va pas bien, puis la personne commence à vouloir se sortir de ça. Et d'aller voir l'entourage de cette personne-là, le narcissique, il essaie de convaincre les autres autour que cette personne-là n'est pas correcte, tu sais, de changer leur perception en inventant, en mentant sur des trucs qu'on essayait de. Ça, c'est un comportement que j'avais entendu qui se pouvait. C'est-tu quelque chose qui existe, ça, ou c'est pas.
Mais souvent, il y a des gens qui sont hyper intelligents et très narcissiques, puis qui vont être inconsciemment ou consciemment un peu manipulateurs, puis oui, capables de bien convaincre des gens. Nous, dans nos interventions, c'est de se relier à la personne pour tenter de les amener à comprendre un peu, mais la perte, elle est où, là? Tu sais, si vous avez des comportements comme ça, bien, premièrement, quand ils viennent nous voir, ça va pas bien, là. Fait que ouais. Puis là, on regarde, puis on tente de prendre en compte les enjeux d'estime de soi qui sont répétés, présents souvent, puis qui les amènent à beaucoup se mobiliser. Puis après ça, de voir, ben OK, quand est-ce que ça survient, qu'est-ce qu'il y en a, puis c'est quoi les pertes? Les pertes, c'est souvent des pertes relationnelles. Quand on n'est pas capable de prendre en compte l'autre, quand on n'est pas capable d'être empathique de façon soutenue aux autres, puis quand on est juste à dépenser de l'énergie pour garder, préserver cette image de soi, et c'est de l'énergie, puis elle reste plus ailleurs. Fait que des fois, on arrive à pouvoir se relier mieux à ces gens-là dans une démarche thérapeutique. Mais les narcissiques sont plus stables que les TPL. Les TPL, c'est instable. Ce qui fait que ça bouge. Puis donc, un TPL à 20 ans, il ne sera pas pareil à 30 ans. Il va bouger. Normalement, ça améliore un peu. Le narcissique, il y en a qui fonctionnent relativement bien, puis c'est difficile de les amener à changer complètement. Puis idéalement, de diminuer l'intensité de ça, c'est l'objectif thérapeutique, mais c'est une démarche plus exigeante et moins évidente.
OK, fait que les narcissiques sont plus durs à changer. Ouais, c'est pas quelque chose qui va nécessairement s'en aller, là.
Oui, non. Les thérapeutes, il n'y a personne qui court après ces clientèles-là. C'est des gens, dépendant du niveau 2, parce que des enjeux narcissiques, on en a tous, là. Mais ouais. Les gens qui sont très sévèrement atteints de ça, c'est difficile, puis ils vont être aussi... avec le thérapeute, comme ils sont dans la vie de tous les jours. Ils peuvent être hautains, dénigrants, accusateurs. Fait que faut être robuste quand on les a en traitement aussi, là.
Mais justement, si de sa nature, il cherche à protéger son image puis sa valeur de soi aux yeux de tout le monde, qu'est-ce qui mène un narcissique à aller chercher de l'aide? Il me semble que c'est absolument contre sa nature.
Ben c'est quand tu es en crise, il n'y a pas le choix. Faillite. Puis là, on tente de voir au-delà de la crise qu'est-ce qu'il y en a. Puis là, souvent, les gens veulent avoir plus un étiquette de dépression là, autour de la dépression. Ouais. OK. Mais si on veut traiter un peu plus longtemps, il faut regarder les enjeux narcissiques. Puis là, comme on dit, c'est une blessure narcissique de dire à quelqu'un qui est narcissique. Là, c'est comme. Personne ne recherche ce diagnostic. Là. Les gens viennent nous voir en disant qu'ils sont TPL, mais que je suis narcissique, là. On ne voit pas ça. L'idée, il faut nuancer. Ce n'est pas un drame. Il y a des enjeux là qu'on voit. On voit quand vous avez des comportements impulsifs, quand ça ne fonctionne pas, c'est que souvent, il y a une atteinte à votre estime de vous. Puis ça vous amène à être complètement submergé par l'émotion. Donc, OK, c'est-tu présent dans votre contexte? Qu'est-ce que ça change? Puis, il y a-tu façon de voir les choses autrement? Ceux qui ont une nuance, à rester soutenu dans le lien. Oui, ils peuvent s'améliorer, mais ça demande une bonne motivation pour vouloir changer sa façon de faire parce que souvent, dès que la crise est un peu moins présente, ben, les gens vont se rhabiller puis vont quitter le traitement, là.
C'est fascinant. Merci beaucoup, honnêtement. C'était super intéressant. J'ai appris un paquet d'affaires. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné que vous aimeriez dire, quelque chose qui est important que quelqu'un qui ne connaît pas ce domaine-là soit au courant de...
OK, c'est ma chance. Attendez. Mais juste... intéressant de mieux comprendre.
C'est
des étiquettes très négatives.
Va falloir le recommencer parce que le son a bugué direct quand vous avez commencé.
Okay, l'idée, c'est que... Je peux y aller?
Oui.
OK. Ben, l'idée, c'est ça. C'est que on donne un diagnostic, mais sur l'étiquette, c'est limitatif. Fait qu'il faut se rappeler que on donne ça pour essayer de comprendre, mais on ne dit pas tout parce qu'il y a plein de nuances à saisir en lien avec ces gens-là. Ça peut bien évoluer. Puis oui, il y a des ressources. Et nous, quand on est proche de ces gens-là, on peut avoir toutes sortes d'émotions, il ne faut pas se culpabiliser d'être irrité, en colère et tout ça, mais de comprendre peut nous permettre d'avoir un comportement un petit peu plus contrôlé avec ces gens-là, qui sont instables. Nous, il faut être, si possible, un peu stable dans leur entourage. Mais pour le reste, écoutez, vous avez fait le tour pas mal de ce que je travaille tout le temps là, par vos questions.
Cool. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Puis, c'est ça. Je pense que les gens vont vraiment apprécier. Y a-tu un événement? Est-ce qu'il y a un prochain colloque? Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous travaillez qui sont autres que...
Prochain colloque est dans 2 ans. Fait que c'est en 2020.
C'est aux 2 ans. OK.
Ben, on parle, ouais. Puis là, ben oui, on regarde pour avoir une association qui inclut intervenants, mais aussi proches. Pour ça. Non, il n'y a pas d'événement nouveau ciblé. Là, notre système de la santé, on tente de sortir en vie de la pandémie, puis notre colloque virtuel, puis il y aura des choses. Et puis, c'est ça, c'est que la clientèle qu'on voit, c'est des gens jeunes pour la plupart, puis ça, le réseautage est impressionnant. Les gens sont très dynamiques sur les réseaux sociaux. S'il y a des choses qui viennent, on pourra, sur le site de l'Institut universitaire en santé mentale, les mettre. Mais j'ai rien de spécifique à
mettre. Parfait. Puis j'ai une dernière question rapide parce que je l'ai oublié, puis elle m'intéressait. Je me demandais, étant donné la pandémie, il y a eu beaucoup, j'imagine, de consultations qui sont faites par vidéoconférence. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile d'intervenir avec quelqu'un par webcam parce qu'il y a une sensibilité de moins qui est présente pour essayer d'identifier des trucs?
Ben oui et non. Quand la technique est bonne, quand la personne est vraiment présente, il n'y a personne d'autre dans sa chambre, et puis j'étais surpris de voir que des fois, ça allait relativement bien. Puis on a même fait, depuis un bon bout de temps, on fait des thérapies de groupe à webcam, mais là, c'est tout l'enjeu de la confidentialité, c'est tout l'enjeu qu'il n'y a personne autour. Mais j'ai vu des dynamiques qui, parfois, fonctionnaient relativement bien, puis aussi, ce qui est surprenant, c'est que les gens, des fois, étaient un petit peu plus à l'aise, comme s'ils sont chez eux, il y avait moins de retenue, puis d'emblée, ils pouvaient mieux se relier. Fait que, j'arrive pas, moi, à avoir une compréhension claire de quand est-ce que c'est utile ou pas, mais des fois, c'est très utile, puis des fois, c'est un équivalent de ce qu'on avait en présentiel. Mais d'autres fois, quand les cas sont complexes, quand on les connaît pas, il faut les voir initialement. Des fois, non, ça a été, c'était pas très utile. Fait que je pense que, à moyen terme, il y a une place pour ça. Ça, c'est clair. C'est aussi utile pour la personne, là, elle n'a pas à se déranger. Mais comment on l'encadre, à quel niveau? Là, je n'ai pas de réflexion claire là-dessus.
Merci beaucoup. C'était super intéressant. Passez une super belle journée. Je vais mettre les informations du centre et de tout ce que vous faites pour des ressources en bas pour les gens qui aimeraient aller consulter ou juste savoir par où je pogne cette bébête-là, si jamais je le leak.
D'accord. Merci beaucoup. Très gentil. Très intéressant aussi. Au revoir.
Au revoir. Bonne journée.